Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mouzima, Katanga Oriental. Je réfute totalement ce qui...
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Paroles aux Auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. La RDC amorce le dernier virage pour les élections générales prévues au mois de décembre 2023. Après le dépôt des candidatures pour les législatives, les provinciales et les communales, c'est le 8 octobre dernier qu'a eu lieu la clôture pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle sur la Commission électorale nationale indépendante. À la date de la clôture, 24 candidatures ont été réceptionnées, dont une candidature féminine pour l'élection présidentielle. Mais alors qu'on en est aujourd'hui au quatrième cycle électoral, de nombreux Congolais estiment que l'espoir suscité lors de premières élections libres et démocratiques organisées en 2006 semble de plus en plus éloigné. Certes, il y a des efforts qui sont consentis pour améliorer tant soit peu le bien-être social des Congolais, mais la triste réalité qui frappe aux yeux depuis les processus électoraux enclenchés en 2006, la majorité des politiciens, une fois élus aux différents scrutins, les priorités citoyennes ne sont pas au cœur de leur action politique. Les attentes des populations, des solutions à leurs problèmes quotidiens sont relégués au second plan. Pas d'accès à l'eau et à l'énergie électrique pour la majorité des Congolais, pas d'infrastructure routière adéquate, pas de logement et accès aux soins des santé adéquats. À ces jours, de plus en plus de Congolais estiment qu'il est plus que temps pour les politiciens congolais de mettre le vrai besoin des populations au centre de leur action politique plutôt que de se servir au détriment de leurs concitoyens. Comment commentez-vous l'action politique de gouvernants et que faire pour que les politiciens congolais soient réellement au service de la population? Merci d'avoir réagi sur la page Facebook Parole aux auditeurs et merci également de vous être fait enregistrer pour réagir en direct. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde de Blechindani, réalise et coordonne ce magazine à la présentation. C'est Marcel Ngomombala. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro Parole aux auditeurs, votre magazine du champ citoyen.
Le 42 502, c'est Radio Capi dans votre téléphone par un simple appel au 42 502. Une fois sur le 42 502, vous avez le choix entre différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banane Doulée au 323. Le 42 502, c'est Radio Capi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Merci également à tous ceux et toutes celles qui ont déjà réagi sur la page Facebook Parole aux auditeurs par rapport à ce sujet où on va parler de l'action politique des gouvernants pour le bien-être social de population. Vous le savez, on est aujourd'hui au quatrième cycle électoral, mais bien souvent les constats est celui-là, alors que depuis les premières élections démocratiques et libres, transparentes, disons-le, qui ont été enclenchés en RDC en 2006. On en est aujourd'hui au quatrième cycle électoral, mais on a comme l'impression qu'il y a des avancées, mais des avancées qui ne sont pas encore vraiment significatives, simplement pour la plupart des politiciens congolais, une fois au pouvoir, les intérêts de la population sont souvent, les priorités citoyennes sont souvent reléguées au second plan et cela n'avance pas le pays. Et pour commenter ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir encore une fois dans ce studio Christian Molika. Il est politologue, membre du réseau Pona Congo et coordonnateur de politologue de la RDC. Christian Molika, bonjour.
Bonjour et merci pour l'invitation à nouveau, Marcel.
Bon, c'est encore un plaisir pour nous de vous accueillir lorsqu'on sait que le réseau Pona Congo a initié une campagne Congo de Lingui qui a été lancée le 19 mai 2023 et qui avait comme objectif d'identifier les principaux problèmes auxquels les citoyens sont confrontés et comment prioriser leurs problèmes. Justement, on va parler aujourd'hui de l'action politique, comment mettre au cœur même de l'action politique les priorités citoyennes. Alors, avant d'accorder la parole à nos auditeurs et de lire certaines réactions sur la page Facebook Parole aux auditeurs, parlons d'abord de ces priorités citoyennes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par priorité citoyenne?
Effectivement, le jeu politique n'est pas très loin des règles économiques, hein, c'est-à-dire du principe de ce qu'on appelle la loi du marché, l'offre et la demande. Nous sommes en période électorale, ça veut dire que les politiciens viennent demander le vote des citoyens. Et ce vote que l'on vient demander s'appuie sur une offre qu'on propose, c'est-à-dire un discours qui doit présenter sa vision, ses projets, sa façon de proposer les changements. Et c'est sur base de ce projet-là que le citoyen adhère et donc répond par le vote. Maintenant, cet échange-là, chez nous, il est faussé. Il est faussé pourquoi ? Parce que dès le départ, l'acteur politique congolais n'a déconstruit pas de manière assez systématique une offre qui tienne compte des priorités et des préoccupations des citoyens. Nous avons commencé là, nous sommes presque en pré-campagne, mais il faut écouter les discours des politiques congolais déjà. Ça ne tourne pas autour des préoccupations des citoyens. Ça veut dire, moi je suis candidat président, qu'est-ce que je propose pour que le poisson des Tanganyika, de Kalemie, soit mangé à Cabinda ? Ça c'est la préoccupation des Congolais. Comment je fais pour relier désormais le Congo, qu'on ne passe plus par les pays voisins pour aller à Goma ? Comment je fais pour que Kisangani, Goma soient connectés ? Comment je fais pour réhabiliter l'agriculture à l'équateur ? Comment je fais pour que le bateau puisse reprendre à naviguer sur notre fleuve et qu'on n'aille plus des mouroirs comme on les a chaque jour ? Ce sont les réponses que le politique doit mener.
Mais généralement, c'est ce qu'il propose lorsqu'il vient solliciter les suffrages
Non, malheureusement, il n'y a qu'à écouter les débats politiques chez nous, ils ne tournent pas autour de ça. Généralement, c'est Azamu Paya, Nazamwana Mboka, c'est des caricatures, des invectives, des attaques personnelles qui ne répondent pas aux priorités des citoyens. Alors que les citoyens ont des problèmes réels, et que les politiques doivent amener un discours qui réponde aux problèmes réels des citoyens. Voilà pourquoi nous avions pensé que la campagne électorale devait être un moment où les citoyens questionnent les acteurs politiques sur leur capacité à proposer une offre qui répondent à leurs préoccupations. Si l'offre que vous avez proposée ne répond pas à votre préoccupation et sert peut-être à dénigrer un adversaire politique, eh bien cette offre-là ne vous convient pas parce que le dénigrement ne répondra pas à vos problèmes. C'est que le candidat doit vous présenter pas simplement un chapelet d'idées ou des projets, mais on doit aller plus loin. C'est-à-dire que si je veux demain relancer la pêche à Kalemie, de manière concrète, je les fais comment, je les finance comment, où je trouve l'argent, dans quelle échéance et dans quel délai. Et là, vous avez donc un plan d'action clair qui peut m'être soumis à un débat entre candidats, puisque l'autre peut avoir un avis contraire, et qui permette à la population de voir avec clarté qui, non seulement a les bonnes intentions, mais également les capacités de les réaliser. Ça, c'est les débats de fond que nous avions pensé, nous, qui devaient être au cœur de l'action politique, et donc les priorités des citoyens. Et non pas faire de la campagne autour de ce qui n'est pas prioritaire pour les citoyens. Nous aimerions que les politiques nous disent voilà comment je fais pour amener la paix de manière très concrète, et voilà comment je fais pour amener pour créer l'emploi pour les jeunes de manière très concrète, voilà comment je fais pour régler les problèmes de logement, de mobilité des Congolais, et non pas une campagne qui tourne autour des périphériques, des raccourcis, à savoir les attaques.
En fait, les promesses, elles sont parfois bien là, mais c'est plutôt expliquer concrètement comment on va arriver. C'est ce qui pose problème. Parce qu'on a déjà entendu des discours tels qu'il aura accès à l'emploi, on va voir comment améliorer la fourniture en électricité, la fourniture en eau, et comment améliorer l'accès aux soins de santé. On attend quand même ces...
Je suis désolé, mais il y a deux débats. Il y a le débat de ceux qui tentent de proposer un minimum de projets, et là encore je parle de non pas de projets mais d'intentions, parce que pour parler de projets, vous devez prévoir le financement. Qui dit projet veut dire budgétisation, planification, avec des étapes et des échéances de réalisation. C'est ça le projet. Donc, s'il faut nous dire, je vais construire 10 barrages, il faut nous dire, je construis 10 barrages en les finançant comme ça, dans tel délai, à telle échéance, je vais lever l'impôt, augmenter les recettes de telle hauteur, avec une telle pression fiscale, pour aboutir à tel résultat. Là, nous avons un projet. Mais si je viens, je vous dis, moi, je vais construire 1500 universités au Congo, sans vous dire où je trouve l'argent, comment je vais le trouver, comment je vais le financer, dans quel délai. Je suis dans les bonnes intentions. Au Congo, nous avons beaucoup de bonnes intentions. Et là, chacun, selon sa capacité, peut aller plus loin en termes de promesses. Après, deuxièmement, il y a un groupe d'acteurs qui n'ont pas d'offres. Et ça, c'est assez permanent. Regardez les grands débats que nous avons eu depuis 2006. Si c'est pas Azamwana Mboka, si c'est pas Ndeke Soso, vous venez en 2011, vous voyez les grandes lignes du débat politique que nous avions eu. Venez en 2018, c'est tout le monde, tous sauf lui. Le tout sauf lui, c'est bien. Mais le tout sauf lui ne répond pas aux préoccupations des Congolais. Et donc, dépassant cette étape de tout sauf lui, proposons aux Congolais une offre qui tienne compte de leurs priorités, et c'est à tous les niveaux. Tu veux être gouverneur de la ville de Kinshasa, tu veux être gouverneur au Katanga, c'est quoi les priorités des Kinois? Et en quoi ton projet que tu amènes répond aux préoccupations des Kinois? Nous sommes dans une ville qui étouffe parce qu'il n'y a pas de mobilité, parce que les corridors routiers sont saturés, il n'y a pas de maillage d'élargissement. Nous sommes dans une ville où il fait énormément chaud, il n'y a plus de ceinture de forêt qui permettait à la ville d'être verte et donc de respirer. Nous sommes dans une ville qui a une pression foncière énorme et donc qui s'étend horizontalement jusque vers Mongata aujourd'hui. Comment on fait pour arrêter cette horizontalité de la ville, pour aller vers les hauteurs? Comment on fait pour régler les problématiques des inondations? Ce sont des questions des Congolais. L'insécurité dans la ville, le banditisme urbain, comment créer l'emploi pour les jeunes dans une ville de jeunesse chronique, apporter des réponses aux problèmes des Kinois. Donc, venez avec un projet que l'on peut discuter entre candidats et avec les citoyens qui tiennent compte de leurs besoins. Et non pas construire les discours politiques sur des clichés, sur des invectives, sur des caricatures qui sortent les débats de fond et qui nous ramènent à des questions personnelles. Malheureusement, c'est le danger auquel nous sommes encore exposés avec ces processus qui viennent commencer.
Et parce qu'on est bien conscient, en tout cas, pour la plupart des Congolais, à cette façon de faire, en tout cas jusqu'à ces jours, on n'a pas pu amener le pays vers l'avant, on n'a pas développé les pays.
Ça ne peut
voilà,
pas.
Voilà, tout à
pas.
Fait. Donc il est grand temps de changer l'offre politique vis-à-vis des citoyens congolais. Mais la grande question qu'on peut également se poser à Christian Molika, vous qui êtes politologue, vous êtes du réseau à Pona Congo. Est-ce que vous pensez qu'après avoir mené telle enquête, vous avez des questions sur les préoccupations quotidiennes de la population, les réponses et par rapport à toutes ces questions? On s'est rendu compte, lorsque j'ai lu le résultat de cette enquête, c'est comme si sur tous les aspects de la vie, rien ne semblait marcher.
Oui, mais parce que si vous prenez par exemple lorsqu'on a fait l'enquête à Kinshasa puis en province, la priorité des Congolais c'est la sécurité. C'est vrai qu'à l'Est, quand on dit sécurité, on voit davantage les groupes armés, les conflits armés. Et à l'Ouest, à Kinshasa notamment et dans les villes de l'Ouest, quand on parle de sécurité, on voit les banditismes urbains. C'est la priorité majeure des Congolais. Mais est-ce que dans les discours des acteurs politiques, vous avez vu un accent particulier sur la lutte contre les banditismes urbains et des réponses stratégiques claires pour les problèmes de l'Ouest? Et des problèmes, des réponses stratégiques claires sous la guerre à l'est de notre pays. Voyez, ça, ce sont des priorités que nous avons pris auprès des citoyens, qui ont été pris en tant qu'acteurs. Nous avons aidé les acteurs politiques, parce qu'on vous amène ce que sont les priorités des gens. Ça veut dire que quand vous construisez une offre qui corresponde à leurs priorités, vous êtes à leur écoute. Donc le travail que le réseau a fait, c'est de consulter les Congolais, de les résumer dans un document qu'on appelle le contrat social, de se le soumettre aux acteurs, afin de les faciliter la tâche de construire un discours qui tienne compte des priorités des Congolais. Donc, ils auraient dû, de mon point de vue, s'approprier ce rapport, ce contrat social, et d'en faire pour certains même un document de base à partir duquel on peut construire un programme de gouvernance, par exemple.
Et voilà déjà pourquoi on en parle, pour attirer leur attention, parce que les grands temps pour que les gens, surtout les policiers congolais, comprennent que le pouvoir c'est pour servir et non pour se servir. Autrement, on va toujours tourner en rond, ce sera toujours le même problème qui vont se poser, le pays n'ira pas de l'avant. Voilà, on va se tourner vers le standard où il y a déjà des auditeurs qui aimeraient intervenir. Roger Marcel, qui nous appelle de Kinshasa, Xavier Safeli qui est à Lubumbashi, Franck qui va nous appeler depuis Vienne en Autriche, et également Magloire qui est ici à Lubumbashi. 081-890-63-30, 081-890-49-69, c'est le numéro d'appel si vous voulez réagir dans ce numéro de Parole aux auditeurs.
Le 42-502, c'est Radio Capi dans votre téléphone, par un simple appel au 42-502. Une fois sur le 42-502, vous avez le choix entre différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banane Doulée au 323. Le 42-502, c'est Radio Capi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42-502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Voilà, on ouvre le bal des auditeurs avec Roger Marcel qui nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour Roger.
Bonjour Monsieur Marcel et bonjour à notre invité qui est dans le studio.
Bonjour Monsieur Roger.
On vous écoute, ouais. Roger.
Ouais. Monsieur Marcel, nous savons que nous sommes maintenant au quatrième cycle électoral.
Oui.
on a vu vraiment des candidatures au niveau de la présidence où nous sommes allés jusqu'à 24 candidatures. Parce qu'en 2006, on avait eu 33 avec le nombre de femmes qui étaient à 3. Aujourd'hui, on a seulement une seule femme. On ne sait pas comment les femmes ne se donnent pas à ces processus-là. Moi, je pense que dans plusieurs pays, quand on vote un dirigeant, c'est pour changer les choses. Ou parfois, on a vu que pendant votre cycle électoral, vous n'avez pas bien marché. Directement, on doit vous sanctionner. Par rapport dans notre pays, où les gens sont là, en train de voter déjà par rapport à leur suivi, par rapport, il est proche de moi, les gens ne font pas vraiment un bon choix. Parce qu'à tout moment, quand on regarde, il y a toujours des mêmes cycles qui viennent, qu'on voit toujours depuis 2006. Quand on vote, c'est pour changer le pays. Mais chez nous, on n'avance pas, on fait toujours qu'irréguler derrière. En regardant aussi la CENI, on a vu que non, au niveau de la présidence, la liste définitive pourra être publiée le 18. Là où je vois encore une autre contrainte, c'est parce que si vous regardez avec les temps qu'on va accorder que le président de la République et les autres puissent faire campagne, avec la date que la CENI a fixée pour le 18, il y aura vraiment un grand problème. Parce que on risquera même pas avoir beaucoup d'opposants et les autres qui seront un peu éliminés. Parce que comment une personne peut se préparer aussi longtemps pour faire la campagne aussi longtemps qui n'est pas encore sûr que si la liste sort, il sera vraiment un candidat. Là, je vois à ce niveau-là, ce sera vraiment compliqué. La CENI aussi, qui n'est pas aussi beaucoup transparent. Lorsque vous regardez au niveau que quand la CENI fait des dépenses qui ne sont pas vraiment déclarées, on ne sait pas la CENI à ce moment, il est à quel niveau, où on dit, il reste un peu que, je pense, 2 mois où des matériels ne sont pas encore déployés partout, mais la CENI ne nous dit pas absolument quelque chose sur ça. On se demande vraiment est-ce que les élections seront tenues vraiment le 20 décembre ou bien ça sera encore le prolongement. Il y a vraiment beaucoup de questions qu'on se pose vraiment. Moi, je pense qu'à ce 4e cycle, il faut vraiment voter le dirigeant qui peut vraiment changer notre pays. Parce que le Congo, c'est comme une voiture qui a vraiment une panne. On ne pourra pas venir avec des théories pour dire « Comme moi, je serai président de la République, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. » Je félicite vraiment notre invité qui a dit vraiment « Il faut venir avec des solutions, donner directement des solutions, au lieu de venir avec des théories pour voir qu'on regarde aujourd'hui notre pays qui ne sont pas réélus. Lorsque vous cherchez à voyager partout, si vous n'avez pas l'avion, il n'y a pas moyen vraiment de circuler presque toute la République parce qu'on manque vraiment de routes. Notre pays, c'est un pays où vous êtes à la tête du pays. Vous venez avec des solutions qui aident vraiment les peuples congolais. Au lieu d'avoir des dirigeants, lorsqu'ils sont là, ils sont là pour se servir, pour ne pas servir le peuple. Donc, on s'est dit non, si on pourra toujours avancer parce qu'il y a d'autres pays qui sont maintenant à 70%. Nous, on n'est qu'à 30%. On fait que toujours qu'il est régulé. On vote des gens qui ne connaissent pas vraiment ce qu'ils vont faire, les gens qui sont là pour leurs intérêts, on cherche toujours à donner toujours confiance à ces gens-là. À un moment, quand ils arrivent, ils viennent avec des polos, avec des pièces partout pour dire non, lorsque je serai voté, une personne qui oublie même son rôle. Hein, on ne vote pas un député pour être là pour venir faire les ponts. Ou moi, quand je serai député, je dois construire une route pour vous. Ou je dois vous mettre du courant pour vous. Non, non.
Alors dites-nous, Roger Marcel, aujourd'hui, puisque tout le monde le dit, et vous l'avez également répété, on est au 4e cycle électoral, il faut que les choses changent par rapport au passé. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'action politique, les priorités citoyennes soient vraiment au centre de l'action politique des politiciens congolais?
Non, tout d'abord, il faut élire une personne qui mérite, hein. Il ne faut pas voter n'importe qui. Aujourd'hui, quand on regarde avec tout ce qui se passe, il faut tout d'abord changer notre classe politique. Parce que quand nous regardons notre classe politique que nous avons aujourd'hui, si on leur encore accorde une chance, je pense que notre pays ne doit plus beaucoup avancer. Il faut avoir des gens qui méritent. Lorsque vous avez un député qui est vraiment capable, qui connaît ce qu'il va aller faire, un président de la République qui vient avec un programme que toute une nation voit que non, ça, c'est un programme qui peut vraiment aider le pays. Ce n'est pas pour vous dire, non, je viendrai avec un budget de 80 de 80 milliards. En arrivant presque à 5 ans, on ne voit pas un budget de 80 milliards. Lorsque moi je serai élu, je dois faire les Congo comme l'Allemagne d'Afrique, ou je dois faire la ville de Kinshasa comme Paris. Mais c'est quelque chose qui ne, que le peuple ne se retrouve pas. Vous regardez aujourd'hui comme le peuple souffre. Il y a des taux de dollars qui augmentent, même au niveau de vie. On cherche un bon citoyen. Lorsqu'il arrive, il vient avec des actions concrètes et le peuple eux-mêmes se retrouve. Non, quand on a élu cette personne, il fait ce que le peuple demande. Au lieu d'avoir toujours les gens qui
donc
sont
vous
là.
Vous êtes d'accord avec l'invité, l'offre politique doit désormais se faire avec des projets clairs où on explique clairement comment tel projet sera réalisé et comment on va y arriver et par quels moyens. C'est bien cela.
Oui, c'est ça. C'est
voilà, merci. Merci Roger Marcel depuis Kinshasa. On va là à Lubumbashi pour accorder la parole à Xavier Safeli. Bonjour Xavier Safeli.
Oui, bonjour Marcel, bonjour à l'éminent politologue Christian Moleka que je connais très bien. Merci d'être là.
Merci beaucoup.
On vous écoute, Xavier Safeli.
Merci. Oui, ici, premièrement, je tiens à encourager l'initiative de Christian Moleka, le coordonnateur de cette structure de Pona, c'est comment encore vous dites
il
ça?
Il est membre du réseau Pona Congo.
Oh, voilà, Pona Congo, merci, Pona Congo. Je trouve ça vraiment, c'est une très bonne chose, vraiment, c'est encouragé. Mais cependant, je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'il propose de pouvoir rédiger le contrat social. C'est bien ça, mais moi je veux dire que cette charte-là ne fera pas grand-chose. Pourquoi? Parce que quand vous voyez, le vrai problème de la RDC n'est pas lié au problème des terres. Parce que je tiens à rappeler ici que nous avons un contrat social par essence qui est la Constitution, qui n'est pas drastiquement respecté. Et que dira-t-on lorsque on va mettre une simple charte, si cette charte serait respectée? Je doute fort. Mais ici, le vrai problème qu'a la RDC aujourd'hui, depuis longtemps, c'est un problème d'homme. La RDC a un problème d'homme. Quand vous voyez très bien ce qui se passe à travers le pays, je vais vous faire un petit exercice intellectuel ici, très simple, que tout le monde va comprendre.
Et rapidement, faites-le rapidement, allez-y.
D'accord, très bien. Nous avons aujourd'hui le président Tshisekedi qui est au pouvoir. Lorsqu'il était en campagne électorale, il avait son programme que je maîtrise très bien. Il avait un programme qui devrait résoudre le problème de l'insécurité à l'est du pays. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe à l'est du pays, l'implacable insécurité extrêmement mortifère continue comme telle. Là, c'est-à-dire il y a un échec. Nous pouvons relever beaucoup de points sur lesquels on peut juger un candidat. Un candidat comme lui, par exemple, il est président sortant. Il est aussi candidat. Mais ici aussi, pour faire comprendre aux gens facilement, c'est-à-dire moi je propose à ce qu'on puisse organiser un débat télévisé de tous les candidats, y compris le président sortant. Un débat télévisé à la télévision et à la radio qui doit être diffusé sur toutes les chaînes de la RDC. Comme ça, ça va permettre à tout Congolais de comprendre le programme de chaque candidat. Comme Christian Moleka dit là-bas qu'il faudrait avoir l'idée sur le programme, savoir comment vous allez exécuter ce programme-là. Et je veux vous dire que ici, normalement, pour que nous puissions avoir la chance de faire décoller la RDC, il nous faudrait des dirigeants qui vont incarner une capacité managériale avérée à résoudre le problème sérieux de la RDC. Et pour y arriver, parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions encore une fois nous tromper comme c'était en 2018, que non, il fallait seulement le président de la République qui dit et puis le reste. C'est-à-dire qu'il faut déconstruire ce système politique idéologique qui existe depuis longtemps et installer un nouveau système politique qui permettra à ce que le Congo puisse décoller. Parce qu'on peut changer la tête, mais si on reste avec le même système, je vous prie de me croire que rien ne marchera. Alors, là, nous devons y aller vraiment avec beaucoup
de prudence. Dites-moi, Xavier Safeli, prenons par exemple pour le cas de l'insécurité à l'Est, et ça, c'est pas pour défendre le président Félix Tshisekedi, mais j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. Il y a tout de même, pendant son mandat, des efforts qui ont été menés. Il y avait des solutions diplomatiques. On a vu comment le président a essayé, avec nos voisins, avec la communauté internationale, mettre en avant évidemment ces problèmes de sécurité à l'est de la RDC en espérant que les solutions diplomatiques pouvaient apporter solution. Malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme il aurait souhaité. Et là, maintenant, on est en train de voir comment maintenant chercher d'autres solutions, par exemple militaires. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était déjà des efforts qui ont été quand même menés pour arriver à sécuriser à l'est du pays, même si le résultat n'était pas, ne sont pas vraiment ceux escomptés?
Ah, d'accord, très bien Marcel. Oui, je dois être clair et honnête au vu de tout le monde. Ici, normalement, je ne peux jamais avoir l'intention de mettre en cause les actions que le chef de l'État a menées durant son mandat pour trouver solution au problème de l'insécurité à l'est du pays. En tout cas, il s'est battu. Ça c'est sûr. Personne ne peut refuser cela. Mais ici, notre problème est bien clair. Aussi longtemps que ces efforts n'ont pas donné solution, n'ont pas résolu le problème, alors nous mettons en cause, moi personnellement, je voudrais mettre en cause les approches peut-être entreprises dans ces efforts-là pour chercher à résoudre ce problème. Ce sont les approches-là que je ne vois pas du tout claires. Parce que quand vous voyez très bien, quand vous voyez très bien ce qui se passe à l'est du pays, c'est vrai que c'est un problème complexe. On ne peut pas nier cela. Mais lorsque on veut résoudre ce problème-là, je pense que il y a certains points qui doivent être non négociables, il y a certaines démarches qui doivent être non négociables, c'est-à-dire ne pas approcher ceux qui nous combattent depuis très longtemps, sous prétexte de dire que non, nous allons combattre ensemble pour sécuriser les frontières communes, tout ça. Non, moi je vois que cette approche-là, c'est ce qui n'a pas été bon. C'est-à-dire, je vois là-bas, il y a le Burundi, le Rwanda, etc., auparavant, etc. Alors, je vois que c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui n'a pas été bien scruté pour prendre de marche allant dans le sens de résoudre le problème de l'Est. Certes, le problème de l'Est est vraiment complexe, mais il n'est pas impossible de le résoudre. Il n'est pas impossible de le résoudre, franchement.
Voilà, merci Xavier Safeli. On retient également, vous avez insisté aussi sur l'homme politique congolais. Vous avez dit qu'il faut changer l'homme politique congolais, mais changer l'homme politique congolais, c'est aussi un autre débat. On pourra y revenir plus tard. Merci Xavier Safeli depuis Lubumbashi. Bonne journée à vous. On reste à Lubumbashi pour écouter Magloire. Bonjour Magloire.
Bonjour.
Magloire, il y a quelques soucis. Il y a quelques soucis avec votre lit. Essayez de fermer votre radio. Vous avez une radio à côté de vous. Fermez votre radio.
Oui, merci. Bonjour d'abord, ma radio.
Bonjour. Non. Magloire, on revient à vous. Hein. Le temps de bien fermer votre radio et puis d'essayer de vous déplacer. On va aller en Autriche, à Vienne, pour accorder la parole à Franck. Bonjour, Franck.
Oui, bonjour, mon ami Marcel. Bonjour à l'invité, monsieur Christian Moleka, à vous tous au studio et aussi à tous les fidèles auditeurs de la radio Cap.
Bonjour, Franck.
Alors, Franck, on parle de l'action politique qui doit être au cœur des priorités citoyennes. C'est pas le cas. Depuis les processus électoraux, on l'a enclenché en 2006 en RDC. Ces élections, les toutes premières étaient vraiment une lueur d'espoir, mais on se rend compte que l'homme politique congolais continue encore à se servir davantage que de servir son peuple.
Oui. Merci beaucoup, je m'excuse, je tenterai d'être bref parce que je suis dans une réunion professionnelle, je me suis quand même éloigné pour les soucis de mon pays.
Allez, allez-y.
Chez nous, en République démocratique du Congo, l'unique et la seule industrie qui peut faire qu'on devienne facilement millionnaire sans beaucoup de peine, c'est de faire de la politique. Et la plupart de nos hommes se battent, se bousculent, pour avoir accès à cet espace politique, parce qu'ils savent que dès qu'on est déjà à l'intérieur du système, on se retrouve. Et comme on sait maintenant qu'on peut se retrouver que quand on est à l'intérieur du système, donc tous les discours avec n'importe quelle promesse, même si on sait qu'on ne va pas le réaliser, est permis. Donc ça, ce sont des constats selon moi. Et par rapport à l'initiative même de M. Christian Moleka, moi personnellement, si je l'entends exposer, si je l'entends parler, je me dis si on pouvait avoir 3-4 comme lui, qui raisonnent comme ça, on pourrait changer beaucoup de choses dans notre pays. Mais la grande difficulté, depuis que je milite au sein de sur vos ondes ici, la grande difficulté, parce que de plus en plus, depuis 2009 que je suis là, je commence à me demander, nous nous adressons à qui? Nous nous adressons à nos compatriotes congolais qui ont un niveau de conception, de compréhension, de maturité intellectuelle pour appréhender ce qui se dit, où on s'adresse aux Congolais normaux, standards, qui peuvent changer de camp à n'importe quel moment. Parce que le plus grand problème, c'est que quand on a déjà une population qui se laisse manipuler à temps et à contre-temps, le matin, il est derrière leader A, à midi, il va chez B, à 16 heures, il va chez C, et la nuit, il revient chez D. Donc, ça devient déjà un problème. Puis, nous avons un problème sérieux au niveau de l'éducation. Donc, si je me mets à comparer un peu les systèmes éducatifs de chez nous par rapport à ceux des autres, quelque part, je n'ai jamais cessé de dire que nous avons beaucoup de problèmes au niveau même de l'enseignement de notre civisme.
Mais Franck, vous avez soulevé quelque chose de très important, vous l'avez dit. Il y a un peu cette façon de faire avec les Congolais qui, tantôt ils sont ici, tantôt ils sont là-bas, c'est-à-dire ils n'ont pas une certaine opinion qui s'effondre de nos dirigeants. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à mieux sensibiliser à cette population, parce que vous avez suivi avec Pona Congo, il y a eu cette campagne Congo Tolingi, cette campagne qu'aujourd'hui, il y a tout un document avec des précisions sur les priorités citoyennes, tout un document où on essaie qu'on met vraiment à la disposition des gens politiques pour s'inspirer par rapport aux problèmes des Congolais. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, c'est comme si on n'arrête pas de faire des efforts dans ce pays pour que l'homme politique congolais puisse changer, mais apparemment, l'homme politique congolais ne change pas, mais la population également, elle-même, continue à se laisser manipuler. C'est ça aussi les grands problèmes.
Mais justement, il y a un ami qui a dit qu'on a un problème d'homme au Congo. Donc, le problème d'homme, c'est pas seulement au niveau des hommes politiques, mais même au niveau de la masse. Il y a aussi un problème de constance. Donc, l'homme politique, il change de couleur, il change de tendance, il change de camp comme les caméléons. Les citoyens congolais de la société civile, ils changent des partis politiques, ils changent des leaders, ils changent des camps comme les caméléons. Donc, c'est déjà d'abord un problème au niveau général. Mais par rapport à la question telle que vous l'avez élucidée là, moi, personnellement, je trouve que chaque enseignement national, chaque enseignement citoyen, chaque bonne notion du civisme doit passer par des créneaux. Il y a l'école, il y a le média, il y a la société, il y a aussi la famille. Mais combien de familles s'intéressent-elles encore aujourd'hui de nos jours à parler un peu des situations politiques à leurs enfants. Moi qui vous parle, je ne fais pas des éloges sur moi-même. J'ai été beaucoup initié par mon défunt papa parce que c'était un homme vraiment instruit qui savait suivre ce qui se passait. Et il nous disait un peu ce qui se passait au pays. Et quand on était enfant, on comprenait. Mais parfois, on n'avait pas la maîtrise de ce qu'on devait comprendre. Mais une fois devenu responsable, on a compris. Et de plus en plus, je me dis, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans votre pays. Mais combien de citoyens congolais s'intéressent-ils d'abord, ne fût-ce que, à ce qui se passe chez eux? Parce que le média qui devait aussi accompagner la formation de la conscience, de l'éveil, les médias sont déjà politisés, inféodés. Alors, au niveau des familles, les parents sont déjà clochardisés, ils ne sont plus des responsables, ils ne sont plus des modèles. Au niveau de l'école, l'enseignant, il est dans quelle situation, comment on les traite? Et par rapport à tout ce qui se passe là, il y a un problème d'abord d'enseignement au niveau du pays. Donc, l'homme politique a compris que pour mettre tout le monde à genoux, il faut déstabiliser les systèmes éducatifs, déstabiliser les systèmes médicaux, déstabiliser les systèmes judiciaires. Comme ça, l'homme politique se pointe partout comme le papa bonheur, c'est lui qui doit construire le pont, les députés, c'est lui qui doit enterrer,
donc vous
c'est
dire,
lui qui doit
Franck,
mettre du sucre au village et du sel finalement.
Franck,
tant qu'on va continuer comme ça, on n'ira pas. Mais il faut que les peuples se ressaisissent parce que chaque révolution ne peut partir que de la population, de la masse. Donc on peut encore continuer à nous battre, mais il faut que nos populations se ressaisissent pour comprendre que dans chaque situation, chaque peuple a ses droits et ses devoirs. Et le peuple ne doit pas seulement rester attentiste en train d'attendre que l'homme politique fasse tout pour lui, parce que les hommes politiques se battent pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur poche, pour leur positionnement.
Donc, Franck, vous pensez
la conception
que
de la politique
Franck,
à RDC doit être revue.
Franck, s'il vous plaît.
On doit maintenant enseigner du très bon civisme.
Forcez vous plaît, justement, c'est ce que j'allais dire et conclure avec vous. Donc, vous pensez qu'au niveau de l'enseignement, de base, il faut absolument renforcer les cours d'éducation civique. Ça peut être une solution. C'est ça pour vous?
Oui. Voilà. Pas seulement éducation civique, mais il faut enseigner aussi l'histoire nationale, il faut enseigner la géographie et même des cours comme sociologie africaine, on doit revoir un peu parce qu'il y a des notions aussi extrêmes. La tendance d'Imoku Bwadimbuta qui a les derniers mots et cette situation entraîne des tendances d'égoïsme, l'équimboutisme dans la mentalité des hommes politiques. C'est comme ça que chez nous, il y a le système des autorités morales.
Et voilà,
une autorité morale dans le contexte congolais ne peut pas être contredite, ne peut pas être contestée, même s'il est dans l'erreur, même s'il est dans l'absurdité, on applaudit. Et parfois, moi, je me demande, quelqu'un qui tient des hérésies en public, vous applaudissez. Mais vous qui applaudissez, vous faites comme qui? C'est comme ça que quand certains me demandent, mais pourquoi tu ne rentres pas faire de la politique? J'ai dit, je fais l'histoire des sciences politiques, je fais des analyses politiques, vous me suivez. Mais avec la mentalité des hommes congolais, si je dois venir travailler avec eux, ils vont m'empoisonner parce que mon système de pensée, c'est pas pour aller me faire des courbettes. Voilà. Moi, je suis un penseur, j'ai dit, on fait des orientations, mais nous nous adressons à qui? C'est là ma difficulté.
Voilà,
je comprends les efforts de mon frère Christian,
mais
je crois qu'il doit chercher à recruter les penseurs pour qu'ils commencent à militer avec eux.
Bah, Franck, je pense qu'on peut s'arrêter là avec vous. On a compris, hein. Donc, continuez à rendre service tel que vous le faites. Au moins, en contribuant dans ce magazine d'échange citoyen. Merci, Franck, depuis Vienne. On va revenir à notre invité et puis, retrouver d'autres auditeurs qui sont en ligne, pour poursuivre cet échange. Christian Moleka, vous avez suivi. Il faut d'abord changer l'homme petit congolais. Il faut renforcer, le système d'enseignement en RDC. C'est par le cours d'éducation civique puisse vraiment être renforcé également le cours de sociologie. Il faut déjà qu'à la base le Congolais déjà dans le bas âge puisse déjà avoir une idée sur le civisme, sur la politique. Vous pensez que ça peut être des solutions? Ils ont dit un contrat social, c'est bon, mais ils seront pas liés, ils seront pas totalement liés.
Les points de vue convergent. En fait, je partage le point de vue de Franck. Hein. En fait, on ne peut pas avoir Il y a un professeur français, Emmanuel Todd, qui a fait un très très bel ouvrage sur la Révolution française.
Oui.
Et l'étude a démontré que la Révolution française a été possible lorsque la France a atteint 50% des lettrés. Donc dès que la population a atteint un niveau de masse critique capable de bien réfléchir, on a eu la Révolution. Donc je crois que le Congo, on pourra avoir le changement que le jour où nous aurons une masse critique, on aura atteint un niveau de masse critique de culture politique très élevé. Et donc ça passe par l'éducation, je suis d'accord. Nous, on avait commencé à lancer ce qu'on appelait à l'époque SM, l'éducation citoyenne de masse. On avait arrêté faute de moyens. Moi, je pense que ce sont des choses qu'il faut explorer. Parce que les canaux traditionnels, l'école, on connaît la difficulté de réformer l'école, de réformer le programme, tout de suite. On connaît la difficulté de la famille chez nous, dénucléarisée, parce que le parent ne travaille plus, parce que l'autorité parentale est remise en question à cause des faiblesses financières. On connaît la faiblesse de l'État. Et donc, il faut être assez inventif pour inventer de nouveaux canaux qui permettent d'éduquer la masse sans uniquement s'appuyer sur les mécanismes publics, parce que on connaît les limites des mécanismes publics chez nous. Donc oui, je suis partant pour l'éducation, je suis partant pour ce travail de sensibilisation. Encore faut-il synerger, parce que nous avons l'habitude, et malheureusement, c'était civil de travailler de manière assez isolée. Donc si on se travaille en synergie, c'est pas mal. Pourquoi nous insistons sur le contrat social? Vous savez, en sciences politiques, on dit, dans les pays de grandes démocraties comme l'Europe ou l'Occident, de manière générale, on n'a plus d'offres politiques. Les acteurs n'ont plus d'offres à proposer, parce que la population est tellement exigeante qu'il n'y a plus d'offres proposées. Et donc les gens sont de plus en plus tentés d'aller vers des offres nouvelles, c'est-à-dire l'extrême gauche, l'extrême droite, les syncrétismes comme Macron, parce que l'offre politique, elle est plus nouvelle. Dans les pays sous-développés comme les nôtres, c'est l'absence de l'offre politique et malheureusement l'absence des pressions sociales. Il n'y a pas d'exigence citoyenne. Il faut que la population devienne exigeante. C'est parce que la population est exigeante que l'acteur change. L'acteur politique ne peut pas lui-même de bonne foi changer. Vous ne pouvez pas se fier uniquement sur sa bonne foi. Ce serait une grosse erreur. Il faudrait qu'il y ait une pression sociale qui le pousse à changer. Et nous pensons que le contrat social, ce n'est qu'un moyen de pression sociale. Ça veut dire que lorsqu'un élu sait que dans ma circonscription, je signe un document devant ma population, il est dans sa conscience morale, il sait qu'il a un compte à rendre. Ne vous en faites pas. Il sait que les gens étaient devant moi, je signe un engagement devant eux, je dis ceci. Mais la mémoire collective ne s'oublie pas, c'est pas comme une mémoire individuelle. Et donc on vous rappellera votre engagement à un moment donné. Nous pensons que c'est un outil qui permet de créer un mécanisme de pression sociale sur un élu portée par une population bien définie. Ça peut s'inscrire à tous les niveaux, depuis la proximité jusqu'au niveau de l'État. C'est-à-dire que nous donnons aux citoyens la possibilité d'avoir des moyens d'exigence vis-à-vis des acteurs. C'est ça le contrat social. C'est ça qu'il faut l'appréhender, comme un moyen de renforcer l'exigence des citoyens vis-à-vis des dirigeants. Maintenant, si on a des dirigeants éclairés, il faut souhaiter les avoir. Et là, c'est là où notre ami Xavier parle des changer d'homme. Si nous avons des dirigeants avec des classes politiques, des dirigeants éclairés.
Et c'est possible de changer l'homme politique congolais, c'est possible, c'est quand même pas possible.
Moi, je suis davantage de ceux qui pensent qu'il faut créer un nouveau
changer.
Il y a un proverbe africain qui dit que nous étions ces tengamamba basong sangosut. Il y a un certain âge où on peut plus changer quelqu'un, parce que les habitudes se sont sclérosées et ont pris des verdures, c'est difficile à changer. Par contre, on peut créer d'autres acteurs, des hommes nouveaux. Si Xavier pense qu'il a cette vision de changer le pays, qu'il s'engage. Nous avons besoin de nouveaux acteurs. Que Xavier s'engage, que Franck s'engage, qu'on ne se limite pas à critiquer du dehors, qu'on s'engage socialement ou politiquement, mais qu'on s'engage et qu'on quitte un peu cette phase attentiste du discours. Parce que vous voyez, au Congo, il y a une sorte d'exemple. Moi, j'aime cet exemple-là. Vous voyez, si vous êtes au Grand Marché, ceux qui connaissent le Grand Marché de Kinshasa, Zandou par exemple, vous avez une solidarité des voleurs. Ils sont trois, ils sont quatre. Vous avez une solidarité organique à telle enceinte qu'il malmène 1000 citoyens. Et les bons citoyens, qu'est-ce qu'ils disent? C'est interdit de passer par ici.
Une espèce de résignation.
Une sorte de résignation de la majorité consciente. Mais qui ne sait pas s'organiser, qui ne sait pas se structurer autant que les voleurs, qu'une solidarité organique. Notre problème, c'est celle-là. Nous avons énormément de gens de bonne volonté qui ne savent pas s'organiser, qui ne savent pas s'énerger et qui sont en train de se complaire.
Voilà, on va prendre trois derniers auditeurs. Magloire qui a le Lubumbashi, et il y a également Kalo Kalondia Mbujimai, espérant Jardel qui est à Kinshasa. J'espère que ça va bien marcher cette fois-ci avec la ligne des Magloire depuis le Lubumbashi. Bonjour Magloire. Magloire, vous êtes en ligne? Il me semble qu'il n'est plus en ligne. Kalo Kalondji, bonjour, j'espère que vous êtes en ligne. Également, Kalo Kalondji n'est plus là. Espérant Jardel, vous êtes en ligne? Espérant Jardel, vous êtes en ligne? Donc, apparemment, tous ne sont plus en ligne. Voilà, Blaise et Jean-Noël Mokondo qui sont à la régie avant. C'est affairé de retrouver ses auditeurs. En attendant, je vais lire certaines réactions sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Il y a cette réaction que je m'en vais lire rapidement. C'est de Dieudonné Sibangou. Il dit ceci: c'est avec regret que nous remarquons que la parité n'existe que 1% au Congo. Triste pour la RDC d'enregistrer un seul candidat à l'élection présidentielle. Où sont toutes les filles et femmes membres des différents partis? Selon moi, le Congo ne souffre pas seulement à cause de politiciens, mais aussi aux non-politiciens. C'est toujours vice-versa que l'État congolais réalise la population détruit, soit la population contribue, soit ceux qui composent l'État congolais détournent. Et ce qui est plus grave chez l'État congolais, pour ne pas dire les politiciens, dans les actions qu'ils mènent, il manque deux notions, suivi et évaluation, oubliant que construire sans terminer, c'est détruire. Voilà, ça c'est Dieudonné Sibangou depuis Kinshasa. Et une autre réaction, c'est celle de Deogracias Stanilas depuis Bukavu. Pour que les politiciens se mettent au service du peuple, il faut une bonne loi dans les finances qui va recadrer leurs salaires et avantages politiques. C'est vraiment exorbitant ce qu'ils gagnent par rapport aux agents de l'État qui n'ont que de salaires de misère, sans avantages adéquats qui ne facilitent pas leur famille de subsister, ni réaliser de petits projets. Voici un exemple. Aujourd'hui, tout le monde rêve de devenir politicien car c'est là où on peut gagner trop et s'enrichir vite. Mais si un ministre avait le maximum de 3 000 $ les mois, ça pouvait encore aller. Mais 21 000 $ pour, par exemple, un député, c'est trop. Et ils consomment trop par rapport à leurs efforts de production nationale et service à la nation. Quand il y a trop de convoitises, ils auront plus d'adversaires qui les empêcheront de bien travailler. C'est ça l'origine de la mauvaise gouvernance dont le peuple est victime aujourd'hui, dont c'était Déo Stanislas depuis Bukavu. Mais voilà, Christian, on évoque également ces émoluments de nos politiciens, par exemple de ministres. Aujourd'hui, on a longuement épilogué sur les émoluments des députés. Vous pensez également qu'à l'heure actuelle, c'est cette vague, surtout pour ce qui est de la députation nationale, peut être liée à ces émoluments, ou bien c'est des personnes qui veulent vraiment aller pour servir le pays?
Je crois que Franck l'avait déjà dit, nous sommes une société à dominance politique. Ça veut dire que c'est les secteurs qui payent le mieux. Vous êtes professeur à l'université. Vous êtes professeur à l'université, par exemple, vous touchez un salaire modique vis-à-vis de, si vous le comparez avec les députés. Vous prenez des métiers aussi nobles que le métier de médecin, que le métier de militaire, que le métier d'enseignant. Dans beaucoup de pays au monde, ce sont les personnes qui sont le mieux honorées. Vous le comparez avec ce que gagne un politique chez nous, il y a pas photo. Donc, il y a un grand déséquilibre dans la répartition de la richesse nationale. Parce qu'en fait, le budget, c'est comme une grande marmite nationale. C'est une grande marmite et l'État, c'est comme la maman qui partage le petit poulet à tous ses enfants. Il va donner une cuisse à tel autre, il va donner l'aileron à tel autre, il va donner une partie du cou à tel autre pour que chaque enfant puisse manger. Mais si vous avez une maman qui vous prépare le poulet, qui prend le 2/3 du poulet et il met dans la tête de papa, ça veut dire qu'il va avoir des enfants, quoi, chaque corps. C'est ça l'État congolais. Donc une très mauvaise distribution de la richesse produite au profit des acteurs politiques et des institutions politiques. Parce que les institutions politiques consomment 60% du budget. 60%. Alors que ce sont des dépenses de consommation, ce ne sont pas des dépenses d'investissement. Donc on a ce déséquilibre qu'il faut totalement changer. Et l'une des recommandations d'ailleurs du contrat social, c'était que les policiers s'engagent à déclarer les revenus. Vous êtes dans un pays où on ne connaît pas les revenus officiels de ceux qui gèrent au nom de l'État. Si vous demandez à un député combien il touche, vous avez un débat. Certains vous diront 21 000, d'autres vous diront 17 000, d'autres vous diront 7 000.
Vous n'avez pas de chiffre.
Vous demandez à tous qui sont dépositaires d'un mandat public combien vous touchez, c'est pas connu, c'est pas normal. Donc il faut de la transparence pour que ce que les politiques touchent soit connu. Il faut qu'il y ait de l'équilibre dans la répartition de la richesse pour que chaque catégorie sociale puisse se retrouver. Comme ça, tout le monde n'ira pas en politique. Certains pourront se consacrer dans leur boulot de médecin, ils travailleront pour l'intérêt du pays. D'autres agriculteurs, ils n'auront pas besoin de venir en politique. Mais si tout le monde vient en politique, mais parce que, voilà, quand vous êtes en politique,
on a appris, par exemple, pour des pays comme la Chine, il semble qu'il n'y a pas des émoluments pour les députés.
Oui, il n'y a pas d'émoluments en termes de salaire, il y a des avantages, des déplacements,
le fait lié à leur,
mais il n'y a pas d'émoluments. Voilà. Chez nous, malheureusement, c'est pas le cas.
On va écouter les tout derniers auditeurs et puis on va lire réactions sur la page Facebook par nos auditeurs et puis on va conclure avec notre invité Christian Moleka. Espérant Jardel, vous êtes en ligne. Bonjour Espérant.
Bonjour la radio Capi et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
Bonjour Espérant.
On vous écoute.
Ouais, et avant d'entrer en jeu, je dénonce d'abord un scandale comme nous parlons élection, un scandale qui s'est fait à Tchikapa, au Kasai. Un candidat député provincial a été nommé informaticien dans l'antenne de la CENI Tchikapa Kamonya. Donc un candidat député a été nommé dans sa circonscription électorale. C'est quelque chose que nous déplorons comme nous parlons élection. Alors, enfin, avant d'entrer dans le jeu, je voulais dire que, comme la RDC ayant déjà amorcé les derniers virages, notamment pour les élections, clôture des dépôts de candidatures, des députés provinciaux, nationaux, jusqu'à la présidentielle, mais comme il n'y a plus de temps pour beaucoup plus avancer, j'aimerais juste parler tout petit peu. Ce que la CENI a fait comme manœuvre, notamment les dernières listes, la liste définitive pour l'élection présidentielle. Cette liste doit être publiée donc à la veille de la campagne électorale. C'est la manœuvre notamment que la CENI a fait pour un camp politique et cela déséquilibre l'opposition totalement dans le sens qu'il va se préparer pour aller aux élections. qui va savoir que son nom sera retenu, aligné pour aller aux élections.
Espérons, s'il vous plaît. Pour l'instant, on en est encore à la réception des candidatures à leur traitement. Pour l'instant, c'est ça que le travail est en train de faire la CENI. Et ensuite, il aura une liste qui sera retenue et qui va être envoyée au niveau de la Cour constitutionnelle. Et c'est au niveau de la Cour constitutionnelle qu'on aura la liste qui va être retournée à la CENI, que la CENI va valider, publier. On n'en est pas encore là. Là, c'est justement des candidatures qui ont été réceptionnées au niveau du bureau de réception de traitement des candidatures.
Ok, bien.
Ouais.
Ok. À cet effet, il y a lié même de noter que la présence de certains politiques qui avaient dans le passé notamment boycotté ou critiqué l'inclusivité de ces processus électoraux, avec leur présence, nous avons compris que cette situation a maintenant crédibilisé la CENI et ses processus électoraux. Il n'y a plus à ce niveau-là à s'inquiéter par rapport à l'inclusivité de ces processus électoraux. Et maintenant, par rapport à l'offre politique, et aussi, ce qui est le plus important en ce moment, il faudrait dans les jours à venir qu'on revoie notamment la Constitution et certaines lois en la matière pour avoir un contrat social avant de s'engager notamment dans les élections législatives et partout ailleurs. Parce que comme l'homme politique n'a pas les contrats sociaux, comme politique n'a pas l'offre politique en soi, cette situation induit la population en erreur. Et ayant déjà bénéficié de ces mandats, l'homme politique se révolte. Et d'ailleurs, l'intérêt général pour lequel il a été élu, il oublie le tout et il dit que c'est son mandat. Cette situation nous décourage beaucoup plus. Nous devons demander maintenant à ce niveau au ministère de l'enseignement primaire, au ministère de l'enseignement secondaire, afin de pouvoir introduire les cours notamment de philosophie politique depuis le bas âge, les cours d'éducation civique, de renforcer la capacité.
Voilà.
Des
gens merci.
Les élèves doivent savoir. Les enfants
merci,
doivent savoir
Jardin.
Notamment que
merci.
La politique au Congo actuellement, c'est pour les intérêts par rapport aux émoluments des députés.
Voilà, on a compris, Espérant. Merci d'avoir appelé depuis Kinshasa. Rapidement, ces réactions de Laurent Mignon, qui nous écrit depuis Kinshasa. Mon humble avis, je pense qu'il faut renouveler la classe politique actuelle qui n'inspire plus confiance, vu le respect du cahier de charges signant entre la population et les politiques. Leur revenu pour nous de sanctionner ceux qui ne méritent pas et ceux qui ont joué à leurs intérêts du reste maintenant. On ne change pas le monde par les paroles, mais plutôt par les actes. Les actes ici, c'est les votes citoyen du décembre 2023. Voilà, là, c'était Laurent Mignon qui a écrit, qui a régi sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Il est ici à Kinshasa. On va conclure avec vous, Christian Molika. Les contrats sociaux, vous insistez, il faut contraindre le politicien congolais à respecter ses engagements.
Nous avons besoin d'une population exigeante, très exigeante vis-à-vis des politiciens. Il faut les contraindre à vous présenter une offre politique qui réponde à vos préoccupations. Et ce n'est qu'à cette condition-là que vous le votez. Vous ne votez pas parce qu'il vous parle votre langue, vous ne votez pas parce qu'il y a Polo ou 3000 francs, vous votez parce que dans son discours, dans son projet, il y a une offre qui répond à vos problèmes. C'est ça ce qu'il nous faut arriver à un moment donné à atteindre. Et si on atteint ce niveau-là, alors le pays peut commencer à espérer un changement.
Christian Molika, politologue, membre du réseau pour la Congo et coordonnateur de Politologue de la RDC, comme je l'avais dit au début de ce magazine. C'est un vrai plaisir de vous avoir dans ce studio. On espère vous retrouver prochainement.
Le plaisir est partagé.
Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro du magazine. Parole aux auditeurs de ces jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Jean-Noël Mokondo qui est à la mise en nom d'Abbé Chinani qui a assuré la réalisation et la coordination au micro. C'était Marcel Ngomombala. À très bientôt dans un autre numéro de votre magazine Échange Citoyen. Parole aux auditeurs. D'ici la bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous. Thank you.